Depuis quelques mois, on entend parler de plus en plus des EHS électro-hypersensibles, particulièrement dans le département de la Drôme où ils se réfugient dans la forêt de Soux, une zone qui semble être oubliée des ondes. Olivier Anne, vous faites partie du collectif Une Terre pour les EHS et vous êtes notre invité ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà en quelques mots ce que sont les EHS ?
Alors, les électro-hypersensibles sont des personnes qui ont développé comme une sorte d'allergie, si vous voulez, aux émissions radio de la téléphonie mobile, principalement. C'est-à-dire toutes les technologies de communication sans fil numérique.
Qu'est-ce qu'il y a comme appareil, par exemple ? Est-ce qu'on peut en énumérer ?
Principalement, là où les puissances sont les plus fortes en ville ou en campagne, c'est autour des antennes relais. On sait que pour le GSM 900, c'est le seuil d'innocuité qui est apparemment reconnu internationalement, c'est autour de 0,6 volts. Donc 0,6 volts, si quelqu'un habite en face d'une antenne relais à 0,6 volts, ça se passe plutôt bien. Cependant, en France, la norme est établie à pour le GSM 900 à 41 volts par mètre. Donc 41 volts par mètre, on sait que c'est dangereux. Tous les gens qui habitent en face d'antenne relais, on constate une augmentation des cancers et une augmentation donc de cette hypersensibilité suite à une forte exposition. Et on trouve généralement des valeurs entre 3 volts et 10 volts par mètre.
Alors donc vous avez dit les téléphones portables, est-ce qu'il y a d'autres appareils?
Alors ça, ça c'est les émetteurs les plus puissants. Et puis il y a autre chose qui se passe, c'est que maintenant on retrouve à son domicile des émetteurs d'ondes pulsées qui s'appellent donc le téléphone sans fil d'appartement, ça s'appelle un DECT. Et donc c'est le petit téléphone avec la base qu'on a à la maison qui est très pratique. Le seul inconvénient c'est que cette base a pratiquement la puissance d'un téléphone GSM classique. Et que cette base émet 24 heures sur 24, sans discontinuer.
Alors ça, c'était le cas ici dans le studio, puisqu'on en a éteint une juste avant l'interview.
Voilà, et effectivement, on rencontre à l'association maintenant de plus en plus de gens qui deviennent électrosensibles, non pas parce qu'ils sont en face d'une antenne relais, mais tout simplement parce qu'ils ont dormi pendant 10 ans ou 5 ans à côté d'une base de téléphone sans fil. À la base, on
c'est progressif, c'est pas d'un coup du jour au lendemain, c'est...
C'est variable. Mais en gros, oui, c'est progressif, c'est cumulatif, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine quantité d'exposition, il y a un moment donné, le corps, il lâche. Et là, en ce moment, on a, si on peut parler d'épidémie, c'est une augmentation de gens qui nous appellent pour parce qu'ils ont été, en fait, surexposés au Wi-Fi. Et toutes les études qui ont été faites mettent de manière claire que c'est 10 fois plus toxique que ces nouvelles que le téléphone.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir le Wi-Fi des maisons ?
C'est complètement évident. Tout système biologique est basé sur l'ADN. L'ADN, c'est un émetteur-récepteur d'ondes radio à très bas niveau. Et on se retrouve là depuis ces 10 dernières années dans un environnement radio qui est supérieur au niveau de réception de ce système biologique. Donc on le sature complètement, on lui envoie des informations erronées, et à un moment donné, c'est les organes qui lâchent, c'est le système neurologique qui lâche, c'est des allergies, ça peut être c'est souvent des acouphènes, c'est d'abord des troubles du sommeil avec une fatigue chronique. Ça peut être des problèmes de motricité oculaire. Enfin bon, il y a tout, et c'est ça qui est effrayant, c'est que il y a toute une palette d'agressions, puisqu'on on touche au fondement même du système. Et quand on touche large comme ça, les médecins sont dépassés, ils comprennent pas.
Pour revenir à la forêt de Soux, donc le conseil général était contre votre installation dans la forêt de Soux. Il vous avait envoyé un huissier, je crois, c'est ça. Puis finalement, alors, ça s'est terminé au tribunal. Il y a eu une décision de justice. Alors, quelle a été cette décision ?
C'est une décision qui est très intéressante sur le fond, parce que le dossier tel qu'il a été présenté mettait en évidence la réalité, c'est-à-dire que l'EHS existe partout dans le monde. Les associations qui luttent contre les antennes relais, les associations qui essaient de défendre et d'informer les gens qui sont malades, ça existe. Mais vous le trouvez aux États-Unis, vous le trouvez en Angleterre, vous le trouvez partout. On peut pas le nier. Et apparemment, le juge a quand même reconnu qu'il y avait une réalité par rapport à cette question. Et donc le juge a effectivement a ordonné que l'on quitte les lieux dans 5 semaines. C'est 5 semaines au terme du jugement.
Ça, c'était le 30 juillet.
Le 30 juillet, oui. Et il invite vivement le conseil général à reprendre contact avec nous, puisque Il ne peut pas l'imposer, mais il met en évidence dans le compte-rendu que c'est apparent, qu'il faut qu'il y ait une médiation et que le collectif n'a jamais rien fait d'autre que de demander une médiation. Et on a envoyé plusieurs courriers durant cette occupation au Conseil Général qui ne nous a jamais répondu autrement que par l'assignation.
Et vous avez trouvé personne à qui parler? Parce que lors de votre conférence de presse, il y avait quand même du monde du Conseil Général qui était
alors
présent.
Alors il y avait M. Royanès qui représentait le Conseil Général, mais le problème c'est que M. Royanès, il est tout à fait ouvert à une discussion, il est tout à fait conscient du problème. Sauf que c'est pas lui qui décide. Et là, je peux vous dire que la décision, elle est un peu brutale. Parce qu'on demande aux gens de partir à la mort. On sait plus quoi faire. Et c'est vrai que le jugement, pour ça, moi, quelque part, il me rassure un peu. C'est-à-dire que laisser 5 semaines pour essayer d'avoir encore la chance de trouver une négociation, c'est vraiment important.
Vous avez ramené avec vous 2 personnes parisiennes, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bernadette et Brigitte. Oui, c'est une situation d'urgence. Bernadette, il faut que on trouve une solution assez radicale, c'est-à-dire une vraie désexposition, c'est la grotte, tout simplement. Donc on connaît un endroit qui est à peu près aménagé pour...
Ah oui, même la forêt dessous, ça suffirait pas, là, il faut...
Ah oui, oui, non, là, il faut vraiment un endroit très, 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 très bas en intensité. Vous savez, les troubles neurologiques que ça développe sont effrayants.
Est-ce que c'est possible, maintenant, d'arriver à reculer?
Étienne Sandrier a lancé l'idée de lancer des villes pilotes, de demander à des villes de France de s'inscrire sur une liste de villes pilotes pour l'abaissement des seuils. Ça a été fait en Autriche, ça a été fait à Valencia. Tous ces exemples sont clairs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'évidence de le faire et surtout ça marche.
Olivier Hahn, donc responsable du collectif Une Terre pour les EHS, et Robin Détois, vous étiez notre invité ce matin, vous êtes venu accompagner. Merci beaucoup.